Bonjour tout le monde, merci d'être là. Toute cette semaine, CFM Radio se raconte à l'occasion de ses 40 plus 1 an. On vous parlera du rôle d'une radio associative, de liberté d'expression, de bénévolat et d'éducation populaire, de cet outil de communication sociale de proximité qu'est ce réseau CFM Radio que vous avez l'habitude d'écouter sur 4 départements, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot et l'Aveyron, avec ses 7 studios implantés à Cahors, Cortes-sur-Ciel, Lacaune, Rodez, Villefranche-de-Rouergue, Montauban et Queilus. C'est là qu'on est aujourd'hui, c'est là que Radio Queilus Expérimental a commencé il y a plus de 40 ans, donc aujourd'hui, on vous raconte CFM Radio.
CFM.
À l'époque où il n'y avait que 3 chaînes à la télévision, où le téléphone n'était pas installé dans toutes les maisons, où il n'y avait pas internet non plus, de Radio Queilus à CFM Radio. Aujourd'hui avec le président de CFM Radio, Hugues Devezin, bonjour.
Bonjour Lisa.
Vous n'aviez pas le bac à l'époque, on est aussi en compagnie de l'ancien professeur des écoles, l'ancien président du club Radio Los Estufleires. Bonjour Étienne Poussou.
Bonjour.
Alors on va retracer un petit peu l'initiation de CFM Radio, de ce réseau actuel qui comprend plusieurs stations, qui a commencé donc à Queilus. Comment ça s'est passé? D'où est venue l'idée?
Bon, d'abord, tu as dit il n'y avait que 3 chaînes, mais il y avait très peu de sons également. Il y avait très peu de radios. Il y avait France Culture, France Inter et France Musique. Et pour avoir un petit peu de musique hors gouvernementale, si j'ose dire, il fallait capter en grandes ondes Sud Radio, Radio Monte Carlo et Europe 1, qui étaient tous donc situés dans les principautés autour de la France, mais pas en France. En France, il n'y avait pas le droit. Et dans les années 80, certains ont eu l'idée de démarrer des radios pirates, à partir de bateaux. Et en 81, c'était une promesse du président François Mitterrand, c'était de libérer les ondes. Donc, cette histoire d'installer une radio locale, évidemment, nous étions une association, les Estuflaires, qui existent toujours, qui était une association d'animation. On organisait la fête de la musique, en fait, c'était un peu plus tard, la fête de la musique, puisque ça a été sous Jacques Lang.
Tu organisais le ciné-club.
Il y avait le ciné-club, il y avait des concerts à l'église. En fait, c'est une association très très locale à Queilus. Et donc, en 81, il a été il y avait dans le projet donc du programme commun de gouvernement de la gauche de l'époque de libérer les ondes. Dans le village à côté, Saint-Antonin-Nobleval, pour ne pas le citer, il y avait un technicien et qui avait démarré un petit émetteur en haut du Roc d'Anglard, avec un disque qui tournait en boucle d'Yves Duteil, et qui, bon, il y avait en quelque sorte un petit groupe d'opposition municipale, et ils avaient eu l'idée de faire un studio de radio à côté des thermes. Ce technicien avait une antenne, avait un magasin à Queilus, en face de l'église. Et bon, moi, j'ai toujours été intéressé par la technique, par tout ce qui était radio. Je suis allé le voir et je lui ai dit, mais un émetteur, c'est vachement compliqué. Pour nous, ça, un émetteur radio, c'était quelque chose d'impossible à imaginer. Ce gars, il nous dit, mais non, regarde, il donne 3 coups de perceuse, il me dit, toi, tu montes ça, comme ça, et tu auras un émetteur radio. Ah, ce que j'ai fait, évidemment. Et effectivement, j'ai créé un émetteur radio qui avait une puissance de 3 watts, à peu près. C'est-à-dire que en mettant une antenne à Queilus, il allait jusqu'au baril de casse, c'est-à-dire à peu près 4-5 kilomètres. Quand nous avons commencé la radio, d'où l'histoire des 40 ans plus 1, hein, c'est-à-dire que pendant un an, nous avons émis sur donc une fréquence, c'était 104 MHz. Nous avons émis donc sur un petit émetteur. Et il fallait des disques, il fallait des tourne-disques, comme on dit. Tout ça, c'est d'histoire ancienne. Et il se trouve qu'à cette époque-là, je faisais de la baloche. Je faisais de l'animation de mariage, un petit peu avec un copain, Jean-Claude. On faisait de l'animation de mariage. Et donc, on avait des tables mixage, platines autour de disques et des disques. D'où Alors, on a cherché un local, on a trouvé un grenier, et très bas de plafond d'ailleurs, parce que régulièrement, on se cognait aux poutres.
D'où le fameux jingle, la poutre folle a encore frappé.
Exactement. Je n'osais pas le rappeler.
Ah, moi je m'en souviens.
Oui, oui, oui.
Bon, pour éviter... On pouvait être à peu près sûr qu'à chaque fois que la personne qui allait parler après ce jingle avait une grosse bosse sur le front.
Voilà. Et quand il n'y avait pas d'émission, eh bien, avec un poste radio, on renvoyait France Inter.
Ben oui. Ça, je ne m'en souvenais pas. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, en fait, Radio Quélus a d'abord été pirate. C'était Radio Quélus expérimental.
Voilà.
Avec les moyens techniques que tu avais fournis au sein de l'association Los Estouflayers, le groupe d'animation quélucien. Et puis, tous ces studios, enfin, ce petit studio s'est mis, je ne sais plus, je crois que c'était du côté de la rue Valestruc, dans un grenier. Moi, j'étais pas encore là à cette époque.
En face de la poste.
En face de la poste, voilà. J'étais pas encore là. Et puis, mine de rien, à la grande différence de la radio qui s'était faite à Saint-Antoine-le-Beuval, vous avez bien fait les choses. Voilà, et vous avez déposé un dossier de demande d'autorisation d'émettre, c'est-à-dire un dossier officiel, à partir de 82, 82, je crois, auprès de TDF, puisqu'à l'époque, la Haute Autorité n'était pas encore constituée, et que c'était TDF qui gérait tout cela, et progressivement pour le compte de la Haute Autorité.
Voilà, nous avons déposé le dossier, alors qu'à Saint-Antoine, ils ont dit « Oh non, ça ne nous intéresse pas, on fait ça pour le plaisir, et nous, on s'est dit, il faut faire les choses comme il faut. Il a fallu donc d'abord disposer d'un émetteur correct. Ce qui a été fait, parce que j'avais donc un cousin qui était réparateur de télévision et qui avait commencé la radio, avec, Radio Gaillac, ça s'appelait, ça n'existe plus. Et d'abord, au niveau dossier, il connaissait du monde au ministère. Ce qui fait que CFM, c'est la radio numéro 82-01.
C'est la première radio d'avoir été autorisée.
Voilà, la première radio autour des Garonnes, dans tous les sens du terme. Mmh. Elle était sur, le dossier s'est retrouvé sur la pile et il a été accepté. Et ça nous a arrangé parce qu'être accepté, ça voulait dire avoir une subvention d'État pour s'installer. Seulement, il fallait commencer à émettre. Or, nous n'avions pas un radio ou très peu. Donc, nous avons sollicité le groupement des artisans et commerçants de Quélus, qui nous ont avancé l'argent. On a acheté un émetteur. À l'époque, nous étions autorisés pour 100 watts, que nous avons installé sur le COS, sur les hauteurs du COS.
Pour être plus précis, 100 watts en mono, et pas 100 watts en stéréo.
Au départ, oui, c'était en mono. Ouais. Ben pour cause, c'est que nous n'avions pas de moyen de liaison entre le village où nous avions trouvé un autre local. Ce local se trouve en face de l'église. Il est actuellement salle d'exposition. Et c'était un ami de famille, donc on s'est installé là. Et donc, pour monter le son... Jusque là-haut, sur le plateau, il y a à peu près 3 kilomètres. Le monsieur Fillol, qui nous a fait passer des câbles téléphoniques, et nous avons j'ai tiré un dimanche après-midi, 3 kilomètres de câbles téléphoniques entre les poteaux électriques.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que ça, c'était, encore une fois, totalement illégal.
Ah, tout à fait.
Parce que, à l'époque, France Télécom est toujours en monopole. C'est-à-dire que les ondes sont libérées, on peut émettre. Il faut une autorisation qu'on finira par avoir assez rapidement, finalement. Mais tirer un câble d'une rue à l'autre pour transmettre un signal, c'est réservé uniquement à France Télécom. Autant dire que si ça avait été France Télécom, c'était impossible compte tenu du coût que ça avait. Et donc, Étienne a tiré ce câble de 3,5 km, qui après occasionnera un certain nombre de soucis. Mais... le fait de le faire, c'était encore illégal. C'est-à-dire, en fait, on est allé à CFM au début, peut-être encore aujourd'hui, qui sait, à Radio Quélus, de transgression en transgression. Et c'est comme ça qu'on a avancé.
Et en officialisation.
Et on transgressait un peu, et puis on faisait officialiser. On transgressait, et puis
voilà. Voilà. Alors pourquoi là-haut, sur le COS, à côté de la Croix, ce que lui a dit la Croix, de point de vue? Eh bien, parce qu'il y a un compteur municipal. Et que nous avons demandé à la mairie de pouvoir se brancher sur le compteur municipal. Donc nous avons obtenu l'autorisation d'installer l'antenne dans un pré qui appartenait à mon oncle. D'ailleurs, il y a toujours la cabane. Elle y est toujours, une petite cabane en parpaing, Elle y est toujours, là-haut. Et nous avons tiré des fils électriques, entre, ce qui était totalement illégal, entre le compteur de la mairie et l'émetteur.
Tu es un hooligan.
Voilà. Et donc, le compteur électrique donc, était municipal. Le fil téléphonique, donc, monté, faisait plus de 3 km jusque là-haut. À part qu'effectivement, ce fil téléphonique a eu quelques soucis. Car, à un moment donné, il n'y avait pas de poteau. Donc, le fil s'est retrouvé dans les buissons. Et, comme il se doit, un jour, la débroussailleuse est passée et nous a coupé le câble à petits morceaux. Autre petite ennui de ce qui se passait et de fait d'avoir l'émetteur sur le COS, c'est que c'était le seul point haut de tout le secteur et qu'à tous les orages, nous avions droit à un coup de foudre sur l'émetteur et sur le pylône. Un émetteur qui, entre-temps, avait été contrôlé par TDF. Quand ils ont vu l'AIG, parce que c'était un émetteur qu'on avait acheté d'occasion, ils se sont dit, ça ne va pas être aux normes. Et ils ont été absolument surpris, ils ont branché tous leurs appareils et tout, et l'émetteur était dans les clous. Pas de
l'époque. Dans les clous de l'époque.
Donc, 100 watts, c'est ce qui était autorisé aux petites radios. Évidemment, il y a eu des cris et hurlements de partout en disant que 100 watts, ça ne permettait pas de faire des radios locales. Et donc, ça a rapidement été autorisé avec plus de puissance. Mais à l'époque, avec 100 watts, il n'y avait pas de radio partout. Nous étions captés à des centaines de kilomètres, jusque dans les Pyrénées, jusqu'à Lavore même, puisque nous avions des auditeurs à Lavore.
Ah oui, les deux fameuses auditrices de Marcel Lambert.
Voilà.
Ah, je ne me souvenais plus de cela.
Et en même temps que nous avons installé des émetteurs, nous avons installé ici, il y avait ici, dans ce lieu où nous nous trouvons, des caves des appartements des instituteurs. Les instituteurs étaient logés à une époque, à l'étage. Et ici, c'était les caves. Et il y avait là, juste derrière notre technicienne, il y avait des cages à lapins.
Les cages à lapins, oui. Ça, je m'en souviens. Oui.
Donc, tout ça, ça a été autorisé, on nous a autorisé à investir les lieux. Donc, ça veut dire un architecte de renom. De renom, qui nous a fait les plans. On a eu des petits jeunes qui n'étaient pas tout à fait formés, enfin, qui nous ont aidés
De qualité.
À cimenter. Voilà. Oui, et d'autres qui sont arrivés, dont tu faisais partie, oui. Puisque tous ces jouets-là de ciment ont été faits par le samedi, le dimanche, par des bénévoles.
Voilà.
Bon, à l'époque, si je me souviens bien, tu as débuté à Bakersi Radio.
Ah non, en fait, j'ai débuté à Radio Keulus, suite, mon père, le fameux architecte, avait deux émissions à Radio Keulus, Place de l'Église. Oui. Quand nous étions Place de l'Église.
Oui, et c'était les contes...
Des contes fantastiques, et un peu...
De La Fontaine.
Voilà.
Les contes érotiques de La Fontaine.
Ah, j'allais pas le dire, celui-là.
Oh, c'était gentil.
Et il avait également une autre émission sur la musique classique. Et il se trouve qu'un jour, ma mère a eu un accident nécessitant de l'amener à l'hôpital rapidement. Et donc, il fallait faire cette émission, car à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de bénévoles. Et il faut savoir que nous n'avions pas d'ordinateur, nous n'avions pas de magnéto à bande. Et donc, la continuité des émissions était vraiment faite par la succession des bénévoles qui venaient au micro ou aux platines faire de la radio. Parce que s'il n'y avait pas ces bénévoles, il n'y avait plus de radio. Et l'une des choses qui était assez extraordinaire, c'est que, en tout cas, les 6 premiers mois, puis les 2 premières années, et puis au fur et à mesure, parfois, enfin, un peu moins, il y a eu un engouement énorme de la population, et Marcel Lambert, lorsqu'il était encore parmi nous, rappelait souvent que c'était presque... Enfin, si les gens avaient pu dormir à la radio les 6 premiers mois, ils auraient dormi à la radio. Parce que cet engouement était assez incroyable. Et là, en fait, mon père part à l'hôpital, Donc je reviens à cette histoire et me dit, ben voilà les disques, voilà mon émission, je devais la faire, je peux pas. Ce serait bien que tu regardes si tu peux faire quelque chose. Et je suis arrivé avec ma mobylette à l'époque et puis j'ai essayé de faire cette émission que j'ai remarquablement bien réussi en oubliant une seule chose, de couper le micro entre les disques. Et donc on entendait absolument tout ce que je racontais à la personne qui était à côté de moi pendant l'émission. Mais à part ça, l'émission était super. Voilà. Et c'est terrible parce que quand vous commencez à faire une émission de radio, ben c'est un virus qui vous prend et qui risque de ne pas vous lâcher. Et donc la première émission que j'ai faite, je ne sais plus, je crois que j'avais 15 ans, 14 ou 15 ans, j'ai oublié, voilà, je dois dire. Et c'était Place de l'Église. Ensuite, je suis venu donc ici avec toute l'équipe, et oui, on a fait la chape béton, ouais. On a fait la porte, les ouais. portes, d'ailleurs les fenêtres,
les joints,
on n'avait pas aménagé
l'électricité.
L'électricité, alors ça, depuis elle a été refaite, hein, Étienne,
ouais,
c'est
ouais,
plus
ouais.
la même. Hein. La pièce d'à côté a longtemps été encore en terre battue, et puis on a fini un ou deux ans après à faire la chape béton. On était trois, j'étais parmi les trois, et je me souviens plus qui était la troisième personne. On a fait le studio d'enregistrement, ça c'est moi qui l'ai fait avec du carreau de plâtre. Et ton père, Odilon Poussou, m'avait donné la fenêtre voilée qui permet de faire la lumière dans cette cabine de production. On a tout fait. On a tout fait, c'était il y a 35 ou 37 ans, j'ai oublié, mais on a tout fait. Et comme tu l'as dit, on nous avait laissé ce local. Je me demande si le maire de l'époque, enfin l'équipe municipale, ne nous avait pas laissé ce local en disant ça durera le temps que ça durera, et puis voilà. Je sais pas, parce que là, j'avoue que je ne sais pas. Voilà.
Il y avait des inquiétudes, ça s'entend d'ailleurs au discours d'inauguration de Mme Miquel, qui était première adjointe au maire, où dans son discours, elle émettait des doutes en se disant mais ça risque d'être une radio anti-municipale, comme ouais. à Saint-Antonin.
Ouais.
Et en fait, non.
Oui.
Non, ça a été, depuis le départ, une radio de liberté d'expression, et ça s'entend encore aujourd'hui.
Bah, hein, j'en suis très très content.
Oui, oui.
Donc on a fait tout ça. Dans les équipes, enfin moi les personnes dont je me souviens, ton père, Odilon, Marcel Lambert, qui a tout de même marqué la radio, à Keylus, énormément. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas marqué que la radio, hein, de son empreinte. Toi-même, il y avait... Olivier Hanard,
Yves Videillag, Jean-Marc Legout, Christine Geoffriot,
oui.
Gérard Sicard, je ne sais plus parce qu'il y a eu tellement de
on va en profiter pour s'excuser parce qu'il y a eu énormément et forcément il y a plein qu'on n'a pas cité là et il faudrait se retourner dans les archives. Petite question Étienne, tu parles du discours de Mme Miquel, tu l'as gardé sur une cassette?
Oui.
Oh.
je crois, parce que j'étais beaucoup de cassettes.
Alors moi, ce qui me ferait énormément plaisir, bon, j'en profite, c'est un petit message, si on pouvait numériser cette cassette et en faire un podcast, ce serait tout de même assez extraordinaire. Ouais. Voilà. Parce que c'était pas il y a 40 ans, mais c'était bien il y a 35 ou 37 ans.
On avait aussi des jingles, des virgules bricolées. Et complètement, un petit peu délirante d'ailleurs. Bon, enfin,
on faisait aussi ce qu'on pouvait. Il faut bien replacer le contexte. Hein. La première chaîne, Canal+, c'est 84. Hein, faut bien, on est dans cette période-là, hein, 81 jusqu'à 88, où là on va créer CFM. On est dans une période où on a peu d'accession à la musique. Peu d'accession à la liberté d'expression, peu, non pas qu'on soit brimé, mais tout simplement parce que ça n'existait pas. Internet, aujourd'hui, je veux dire quelque chose, j'ai Twitter, j'ai Facebook, j'ai les réseaux sociaux, c'était juste, le Minitel existait, mais ça s'arrêtait là. Donc on est dans une période de pauvreté médiatique, globale, en termes d'audiovisuel, et la radio est un véritable attrait. À l'époque aussi, en termes de curiosité, il y a toujours la
musique.
Les nouvelles musiques, c'est vrai qu'on écoutait beaucoup de choses qu'on n'entendait pas sur Inter, qui était la seule radio qu'on recevait bien en FM, puisque les autres, on ne les recevait pas en FM, puisque c'était les périphériques. Donc ça explique aussi beaucoup l'engouement de l'époque.
De la radio pirate à la radio associative, donc comment ça s'est passé, la logique de la création de CFM Radio, de la succession d'émetteurs, déjà la création de ce premier, le montage de ce premier pilote qui a été assez épique, je crois, et puis...
Oui, tout à fait, puisque donc Christian Desjeunes, donc qui était le technicien donc à la fois de Radio Nobleval et le nôtre, était un petit peu casse-cou, si j'ose dire. Il faisait du delta plane, Et donc, il s'est proposé de monter le pylône, donc là-haut sur le COS, par tronçon. C'est-à-dire qu'on met un premier tronçon, bon, on l'attache.
Il est à la croix, il est monté à la main, comme l'explique Étienne. Je ne sais plus pourquoi il va finir par déménager à Puy-la-Garde. Qu'est-ce qu'on
a fait ? À cause des orages.
À cause des orages.
Les orages et on avait des problèmes de liaison. Oui, puisque, bon, le câble ayant cassé. On avait donc monté un petit émetteur à 7 MHz.
Pour monter en FM, ce qui là aussi était illégal, puisqu'on ne pouvait pas utiliser une fréquence. On avait une autre autorisation d'émettre sur le 103.9.
103.3.
Ah oui, 103.3. Pardon, 103.3. Et ensuite, pas d'autre. Et là, en fait, on faisait un rebond. Voilà, on faisait un rebond.
Voilà. Mais bon, ça fonctionnait mal, en fait. C'est quand on a eu tout démonté qu'on a compris pourquoi ça fonctionnait mal. Mmh. En fait, donc, on avait un émetteur, un petit émetteur ici, qui variait de fréquence régulièrement. On retouchait les fréquences, ça changeait un petit peu à varier sur l'alimentation.
Ça veut dire que le quartz, c'était pas très quartz.
Il n'y avait pas de quartz.
Voilà.
Il n'y avait pas de quartz. Et donc, en fait, M. Desjans avait modifié le poste de réception. Il avait enlevé le contrôle automatique de fréquence, ce qui fait que le poste de réception dérivait allègrement. Sans compter qu'à chaque coup de vent, l'antenne FM qui était dirigée vers le village changeait de direction. Et donc, je me retrouvais à monter à 20 mètres pour aller redresser l'antenne de réception. Sachant que l'antenne d'émission, il y en avait qu'une, était à 30 mètres. Et c'est donc Christian Desjans et Jean-Marc Legout qui l'ont monté le samedi matin. Je n'ai pas pu être là. Et je suis content de n'avoir pas pu être là.
Oui, je me souviens que là, au troisième pylône, t'étais là, mais t'as pas voulu monter.
Ça a bougé.
Eh oui, ça bougeait.
Il y avait des tendeurs, des câbles, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein, les émetteurs des pylônes non autoportants, qui tiennent par des câbles, quand on est à 20-30 mètres, ça balance. Hein, bon, c'est solide, mais ça balance.
Ah.
Et on se retrouve entre rien et le vide sur un triangle de 30 centimètres. Donc c'est sûr que c'est toujours un petit peu... Mais ça t'est arrivé de monter aussi.
Eh oui. Mais j'ai dit à ma mère que c'était pas vrai, je l'avais jamais fait.
Oui, bien sûr.
Jamais. D'ailleurs, elle m'a vachement cru.
Donc, cela à cause des coups de foudre, de la liaison, etc., j'ai dit, bon ben, on va essayer de se mettre sur un point gros. Et on a essayé de s'installer à Puy-la-Garde. Et là, ça a été la catastrophe, puisque le mât s'est cassé, la liaison n'est jamais passée. Et là, tout était arrêté.
Et là, en fait, il y a eu un très gros problème. C'est-à-dire qu'on est dans une période où plusieurs choses se mélangent. Le gouvernement a changé. Les aides d'État doivent arriver, mais elles n'arrivent pas. Et il y aura 9 mois au moment de la signature. À l'époque, c'est M. Devilliers, qui est secrétaire d'État à la communication, qui va finir par signer le décret du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, mais avec 9 mois de retard. Énormément de radiocédies vont mourir. La nôtre ne va pas bien, mais en plus on n'émet plus. Or, quand vous n'émettez pas en radio associée, en radio, quelle qu'elle soit, vous avez le risque de perdre votre fréquence pour non-émission. Donc on a d'un côté l'obligation d'émettre, de l'autre plus d'argent, et en troisième lieu, un nouveau site qui permet pas, en fait, qui n'était pas bon en termes de propagation des ondes, qui ne permettait pas d'être joint, et qui en plus est cassé. Et là, forcément, il y a quelques tensions dans l'association.
Voilà, et j'ajouterai donc un quatrième lieu, effectivement, c'est que la radio était une radio autogérée, c'est-à-dire qu'on avait réunion tous les samedis après-midi.
C'était compliqué.
Pendant laquelle, on s'engueulait, quoi. Donc, il faut comprendre, il faut savoir qu'il y en a qui faisaient des émissions du samedi soir, et le dimanche matin, on trouvait des bouteilles vides au pied des bureaux. Bon, plus différentes manières de concevoir la radio, et donc tout, un par l'autre, effectivement, ont fait que ça tournait à vide, ça ne fonctionnait plus. Et là, il y avait quelques jeunes là qui sont arrivés... Et oui, parce que...
C'est ce que j'ai appelé la querelle des anciens et des jeunes, le fait.
Oui, mais enfin, il faut penser que... Je resitue ça dans le temps, c'est-à-dire que quand on a démarré la radio, ben j'avais 28 ans. Et ça, aujourd'hui, que j'en ai 40 de plus, ça me surprend. Toute cette énergie que nous avions Déjà, ah oui. de 20 à... Bon, à beaucoup plus, parce qu'il y avait Jacques Tondra qui était né en 1918.
Ancien de l'ORTF en Afrique, je ne sais plus quel pays, mais c'était un ancien speaker.
Enfin, on s'était équipé de magnétophones à cassette.
Oui. Hein,
voilà. Et ces magnétophones à cassette permettaient de faire deux émissions. On mettait deux cassettes, donc ça pouvait tenir deux heures. Donc, celui qui était à l'émission d'avant appuyait sur lecture. Quand arrivait la fin de la première cassette, il y avait un petit battement dû à la technique. Et ça démarrait la deuxième cassette. Et normalement, à la fin de la deuxième cassette, il devait y avoir quelqu'un.
Voilà, normalement.
Normalement. Mais, des fois, c'était silence. Silence radio. Alors, au tout début... Le moindre silence radio, nous étions 4 ou 5 à arriver vite, vite pour savoir. Et puis, ça s'était tellement banalisé que plus personne ne bougeait, ce qui fait qu'il y avait des silences pouvant durer des heures et des heures, de nuit entière.
Alors, on a remédié à ça en achetant ce qu'on a appelé, alors les surnommés Albert. En fait, ce sont des magnéto-revox, donc des magnéto à bande, qui permettaient de faire entre 2 et 6 heures, parfois 8 heures de bande. Mais le problème d'une bande magnétique, c'est qu'elle se distend. Donc au bout d'un certain nombre de passages, la musique change. Elle se ralentit, si vous préférez. C'est-à-dire qu'elle se met à changer.
Et donc, c'est-à-dire normalement, une fois qu'il arrivait à un bout, il y avait un système magnétique qui le faisait partir de l'autre bout. C'est-à-dire que l'émission recommençait au bout de 4 heures, c'était la même émission.
Voilà. Mais au moins, il y avait une continuité d'antenne.
Sauf quand il y avait une coupure de courant. Et il y avait souvent des micro-coupures de courant. Il n'y avait pas d'onduleur. Autrement dit, le magnéto s'arrêtait. Et pareil, au tout début, nous étions plusieurs à venir appuyer sur le bouton. Et au bout d'un certain temps, il arrivait qu'il y ait un silence.
Là, on est en fait, jusqu'à présent, avec Étienne, on parle de Radio Caylus. C'est-à-dire que, à l'époque, je suis... Étienne est président du club Radio Caylus. Puis ensuite, il y aura d'autres personnes. Oui. Je me souviens un peu des noms, mais j'ai peur de dire des bêtises, donc... Pardon. L'association Los Estouflares et la radio prenant de plus en plus d'importance, il y a les flottements et les ennuis que a décrit un petit peu Étienne. Et on est plusieurs jeunes dans cette association à faire des émissions et à vouloir continuer à faire des émissions. Et tout le monde dans l'association ne veut pas forcément continuer à faire de la radio, mais plutôt de l'animation. Il va y avoir cette querelle entre ces deux groupes. Et finalement, c'est les jeunes soutenus par Étienne, Marcel Lambert... un certain nombre de membres de l'association, puisqu'il va y avoir un vote, pour être très clair, soutiennent l'initiative des plus jeunes dont je fais partie. Oui. Au départ, je suis vice-président, chargé de la diffusion, puisque nous n'émettions plus à cette époque-là. Oui. Et je deviens finalement président de l'association. Donc la première tâche qu'on va avoir, c'est de remettre en route un émetteur. Alors ça va être épique, on va leur trouver un site. On a fini par en trouver un, on s'est fait chasser à coups de fourche, je sais pas si tu te souviens, du côté de Saint-Martin. Bon, alors qu'on était en train de commencer à faire les fondations. On a eu la chance de rencontrer Monsieur Davy, qui a accepté sur son terrain de signer une convention avec nous et de faire cet émetteur. Et là, on n'a pas du tout eu la chance qu'il y avait à la Croix, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Donc il a fallu tout amener sur Mouloir.
Il y avait un point gros.
Voilà. Il était bien situé. Et puis on a fait toutes les études. Donc 450 mètres de tranchée pour amener l'électricité. Je vais pas tout raconter parce qu'il y a tellement d'anecdotes là-dessus. Et ce pylône, le fait est qu'il a fait le monter à 28 mètres. Il ne fait pas 30 mètres, il fait 28 mètres. Et à partir de 8 mètres, je me suis retrouvé tout seul à devoir le monter. Parce que personne ne voulait
monter. Avec la même technique.
Avec la même technique, c'est en fait à bout de bras, quoi. Dès que c'était enclenché, j'engueulais Marcel Lambert, Étienne, en bas, pour qu'ils tirent les câbles et que je boulonne. Et on allait une fois que c'était bien tendu, bien solide, je remontais, je faisais 4 mètres de plus, et ainsi de suite. Et puis on a mis les dipôles, 4 dipôles en ligne, et puis on a mis un émetteur qu'on avait acheté un peu plus conséquent. Voilà, et on s'est mis à bien... C'était un émetteur, le fait est à tube, un DB Electronica de 800, un CX800. Je ne sais plus si on l'a encore, mais j'ai toujours voulu le garder, je ne sais plus si on l'a encore.
Tu es un gros consommateur d'énergie.
Oui, on a arrêté parce que, voilà. Mais c'était un vrai bulldozer.
Là, vous aviez été fou, je trouve, ça a été de tirer tous ces câbles, d'enterrer des câbles avec du 2x10 carré sur de grandes distances pour rejoindre la ferme au fond de...
Oui, dans la vallée.
Au fond de la vallée.
Ouais. Mais l'anecdote que je raconte toujours, c'est que j'avais fait tous les calculs, tout était super, j'avais oublié qu'une seule chose, le poids. C'est énorme. 450 mètres de 2 fois 10 carrés. En fait, c'est un tourin. C'est pas une bobine. C'est monumental. Quand on a vu arriver ça, déjà, il a fallu trouver comment le monter en haut, grâce à un tracteur, en faisant ce bon. Et après, comment dérouler ce câble. Enfin, c'était. Enfin, ça marche toujours. Entre parenthèses, ça marche toujours. C'est le même système qui marche depuis. On a changé l'émetteur, on a changé les aériens, mais ça marche toujours. Donc, on fait tout ça. Qu'est-ce qui se passe? La radio fonctionne finalement plutôt correctement. On commence à avoir des salariés, des tucs à l'époque. Et puis on a la volonté de s'agrandir un petit peu parce qu'on est une radio de territoire. Et on veut avoir un émetteur à Caussade. On aurait voulu émettre sur Saint-Antonin, mais à l'époque le maire de Saint-Antonin nous avait expliqué qu'il ne voulait pas laisser l'intégrité de son territoire violée par des ondes. Le docteur Constant, hein, il m'a dit ça textuellement. Je ne laisserai pas violer l'intégrité du territoire.
Il a vu l'expérience de Radio Noble-Val.
Bon, j'avais pas tout compris, j'étais jeune à l'époque, hein, j'avais moins de 20 ans. Donc, voilà. Et ici, on veut s'agrandir. Et en face, il y a l'espèce de décharge, je sais pas comment on peut appeler ça, l'ancienne
des
chapelle.
Caves.
Oui, des caves, encore des caves, qui maintenant forment la cyberbase.
Oui. Hein,
donc c'est tout, ça fait tout beau, tout neuf, mais en fait c'était totalement délabré. Donc on propose au maire de l'époque, je crois que c'était Christian Nicolas, mais je ne suis pas sûr, de nous s'agrandir, parce qu'on a des bénévoles, des salariés, on voulait un deuxième studio, et puis ça nous est refusé.
Ah oui, il y avait 7 ou 8 personnes, l'air de rien, dans la pièce à côté.
Voilà.
Et c'était pas encore interdit de fumer. Hein, ouais. Donc je plaidais notre secrétaire... qui vient de prendre sa retraite, là.
Il n'y a pas longtemps. En janvier.
Qui supportait tout ce monde dans une ambiance. Bon, c'était une époque.
Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, nous allons rencontrer le maire, je ne sais pas s'il est déjà sénateur, Yvon Collin, par un concours de circonstances.
Et, Caussade, ouais, le maire Caussade. De Caussade.
Et lui, en fait, je dirais qu'il a envie d'une radio. Je ne sais pas qu'il en rêve, mais en tout cas, ça l'intéresse. Et donc, l'idée un peu folle va germer de faire une deuxième radio. Et on va être la première association en France de radio à faire deux services radiophoniques. Je dirais presque comme des radios commerciales aujourd'hui, hein, enfin à l'époque. Et donc, on va... tant pis, on achète un terrain pour l'émetteur. Ça, c'est le maire de Sept-Fonds qui nous suit à fond à l'époque. On fait le festival à Sept-Fonds. Enfin, je me souviens plus de son nom, je suis confus. Mais il est extraordinaire, il nous soutient. Le maire de Caussade, donc Yvon Collin à l'époque, nous subventionne. Nous louons un local que nous réaménageons.
L'ancienne chapellerie.
Voilà, et l'ancienne chapellerie dans laquelle... alors pour l'anecdote, c'est fou ça. Avait travaillé la mère du contrôleur général du fonds de soutien à l'exploitation phonique, c'est-à-dire c'était Monsieur Gouze, je crois. Il arrive à l'inauguration avec Jacqueline de Guyenne-Schmidt et Philippe Labarde. Il me regarde, il me présente une personne assez âgée. Il me dit c'est ma mère, et quasiment en larmes, il me dit ma mère travaillait ici. Et en fait, notre dossier depuis des années était étudié par des gens dont le trésorier payeur général. Un haut personnage de l'État. En fait, on émettait dans l'ancienne usine de sa mère. On a une étoile, une de plus. Voilà. C'était assez étonnant. Donc, CFM naît d'une volonté de couvrir le pays devenu par la suite pays Midi-Quercy, cette radio de territoire, avec la même idée que on doit avoir un lien social entre ces différents territoires que sont les communes, les communautés de communes et à l'intérieur du pays. Et comme on ne peut pas faire ce qu'on voudrait, on va dire, à Keulus, dans l'idée qu'on avait, eh bien, on fait autrement. Et ce autrement, c'est le démarrage du réseau. Voilà.
Voilà, il faut penser qu'il y a aussi... vous ameniez aussi une autre conception de la radio. Parce que là, j'ai dit, ça se voulait une radio autogérée et associative à 100%. Eh bien, quand tu as dit, il faut faire un peu de pub parce qu'on ne s'en sortira pas. Là, ça a été le clash. Oui, on va être affilié. D'ailleurs, la Dépêche nous avait contactés en nous disant, mais j'étais allé à une réunion, en nous disant, la Dépêche nous avait dit, nous, on sait faire de la pub, si vous voulez, venez avec nous, il n'y aura pas de problème. Et Radio Ingres avait été rentré dans ce jeu, et Radio Ingres n'existe plus. Voilà. Mais bon, c'est peut-être pas pour ça seulement, hein. Mais disons qu'effectivement, ça a créé une tension parmi les membres. Il a fallu faire un choix. Bon, c'est moi qui ai fait basculer le choix. Et je suis content. Je suis très heureux d'avoir fait ce choix.
Si tu permets, j'aurais un petit message. sans Étienne Poussou, j'aurais jamais fait de radio. Et je suis pas le seul. Et en fait, sans Étienne Poussou, j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. C'est-à-dire que par la suite, je suis devenu cadre dirigeant du groupe Lagardère, dans le pôle FM. J'ai fait de la radio au niveau national. J'ai fait d'autres choses, toujours en restant président bénévole à CFM. Mais en fait, sans Keylus, sans Étienne, sans Los Estouflares, et je suis pas le seul. Mais et je tenais à te remercier énormément. Parce j'aurais pas vécu la vie que j'ai vécue jusqu'à présent.
J'ai suivi le fait que tu aies basé tes mémoires d'étudiant sur le phénomène radiophonique, puis que tu aies fait partie du groupe des radios locales en France, que tu étais rapporteur au Sénat ou
Non, pas au Sénat. C'était membre du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
Tu t'étais exprimé à l'Assemblée.
Oui. Ah oui, ça va. Oui, c'est vrai.
Pour expliquer justement quelle pouvait être la démarche de petite radio qui. Et voilà, qui pouvait effectivement avoir plusieurs CV.
Mais en tout cas, tout ça, je ne l'aurais jamais fait si tu n'avais pas été là. Et d'ailleurs, je peux aussi dire, je pense si Yves Dayak n'avait pas été là, même si en fait, on a toujours travaillé ensemble, Étienne. Mais bon, formé un tandem à l'époque.
Oui, toute une équipe, c'est toute une équipe, hein, c'est tout un noyau. Hein, voilà, et moi, ça m'a permis de rencontrer des gens. Je suis venu ici dans ce studio, bon, qui n'avait pas l'allure d'aujourd'hui, pendant 30 ans. J'ai fait une émission le dimanche matin, pendant 30 ans, avec un complice que j'ai adoré, qui était donc Marcel Lambert, et d'autres qui sont venus, qui sont repartis. Bon, c'était la joyeuse équipe du dimanche matin, et je sais qu'elle était très écoutée. aux grandes dames de personnes qui auraient voulu des émissions de grande qualité, ce qui n'était pas le cas.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Au moins, c'était de la bonne humeur et voilà.
Étienne, encore merci.
Écoute, merci de me faire rajeunir, de me faire oublier que j'ai pris quelques cheveux blancs depuis et que j'ai quitté la radio maintenant il y a un peu plus de 10 ans, mais j'y reste profondément attaché, j'y reste de cœur.
Étienne Poussou et Hugues Devezin, respectivement président du club radio Los Estouflares, fondateur instigateur de Radio Keylus et président actuel de CFM Radio. Merci beaucoup à tous les deux.
Bon, on ne dit pas un au revoir, on dit à très bientôt.
Oui, à très bientôt.
Et puis, bonne écoute.
À très bientôt.